Première invitée des matins du samedi, une jeune artiste sculptrice dont le travail sur le corps, la fertilité, le féminin est l'un des plus époustouflants qu'il nous ait été donné de voir ces dernières années. En 2017, elle investissait le musée Guimet à Paris. En 2018, son œuvre était présentée à la Fondation Luma à Arles. Elle est à l'honneur en cette fin d'été avec deux expositions en France et un film. Au château Malromé, à Saint-André-du-Bois en Gironde, on peut voir jusqu'au 29 septembre, c'est-à-dire demain, ses daughters, comme elle les nomme, ses filles de terre cuite qui lui ont été inspirées en Inde et en Chine par le déséquilibre démographique. À la Galerie Templon, à Paris, l'exposition Catharsis rassemble jusqu'au 19 octobre un ensemble de nouvelles sculptures en dialogue avec son premier long-métrage documentaire qui lui s'intitule Serendipity et qui sera en salle le 23 octobre. Prune Nourry, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue à vous dans ces matins du samedi. C'est plutôt un bel automne qui s'annonce, non ?
Très bel automne, oui. Assez rempli en voyage. Je repars là bientôt aux États-Unis pour la sortie du film aux États-Unis. Je reviens ensuite en France pour la sortie du film ici.
Aux États-Unis où vous vivez à New York, mais vous faites des voyages non-stop en Inde, en Chine, New York où vous vivez, Paris, et puis Saint-André-du-Bois. Le château Malromé, qui expose quelques-unes de vos œuvres depuis cet été et jusqu'à demain. Prenez-nous par la main, Prune Nourry. Le visiteur est accueilli dans la cour du château par une tête de Bouddha. C'est qui ce Bouddha ?
C'est un Bouddha que j'ai créé pour le musée Guimet à l'époque, comme une œuvre in situ quand j'ai été invitée par le musée. C'était important pour moi de penser une œuvre spécifique pour le musée qui était... très riche en, justement, en culture. On passait d'une pièce à l'autre, du Tibet à la Chine, au Japon et puis soudainement aussi à l'Afghanistan. Et à travers toutes ces salles, à travers toutes ces cultures, on retrouvait la figure du Bouddha. J'ai décidé de faire ma propre version qui serait morcelée, mais à travers les étages comme une sorte de colonne vertébrale. Et ce Bouddha, bah, je pouvais faire un Bouddha chinois, un Bouddha japonais. Ils sont tous tellement différents, en fait, sculpturalement parlant. Et j'ai décidé de faire le Bouddha afghan inspiré des Bouddhas de Bamiyan, comme un hommage au Bouddha de Bamiyan, parce qu'on était au final juste après Palmyre. Et avec Sophie Macariou, la directrice du musée Guimet, on souhaitait aussi parler de ça à travers l'exposition. Et la sculpture, le Bouddha s'appelle « La destruction n'est pas une fin en soi », justement sur cette idée qu'on peut détruire une sculpture, une œuvre, mais on ne peut pas détruire une idée. L'absence des Bouddhas, maintenant qu'il y a ces grottes vides, parle autant presque que leur présence.
Au château Malromé, outre ce Bouddha qui nous accueille donc dans la cour du château, on peut voir vos daughters, les filles. Alors il y a les Holy Daughters, qui sont les sculptures mi-vache, mi-fille que vous aviez installées dans les rues de New Delhi au moment où vous les avez créées. Et puis il y a les Terracotta Daughters, qui elles prennent pour modèle des écolières chinoises d'aujourd'hui et qui s'inspirent de célèbres guerriers en terre cuite qui eux sont vieux de 2000 ans. Vous allez nous raconter bien sûr le processus des Holy Daughters et des Terracotta Daughters, mais dans les deux cas, l'idée, c'est de travailler sur, je disais tout à l'heure, le déséquilibre démographique, c'est ça, c'est le fait que des petites filles en Inde, d'ailleurs, comme en Chine, sont souvent non désirées, parfois même ça va jusqu'à la mort, et vous aviez envie de leur rendre hommage à ces fillettes ?
C'était vraiment comme une recherche sociologique en accord avec des sociologues, des anthropologues, des démographes, donc j'ai commencer à baser mes recherches et mon projet sur la rencontre avec des spécialistes, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine. Et je cherchais une manière de pouvoir, avec mon point de vue, forcément française, habitant aux États-Unis, de faire une collaboration avec les gens sur place, que ce soit les artisans, que ce soit les scientifiques, mais de trouver une manière qui, en fait, parle là-bas avant tout. Et c'est comme ça que, du coup, je suis partie sur... pour l'Inde, un symbole très fort qui est la vache sacrée, qui est respectée parce que une divinité, symbole de fertilité. Sauf qu'effectivement, il y a ce paradoxe des petites filles qui, elles, sont vecteurs de fertilité puisqu'elles seront mères un jour, mais personne n'en veut. Donc j'ai hybridé les deux, ce qui effectivement était une divinité qui n'existait pas, et la Holy Daughters a pris vie, et je l'ai à un moment donné passé, aussi j'ai passé la main à des artisans, on l'a réalisé en 6 mètres de haut, à partir de la mienne, ils ont fait leur propre version,
et on est... Corps de femme, tête de vache.
Oui, alors, plutôt un hybride génétique. Ouais, un hybride génétique avec vraiment les articulations, il y avait toute une recherche sur les articulations. et les ossements pour pouvoir vraiment être dans cet hybride profond. Et du coup, on l'a réalisé en très grand et puis on a fait une procession en suivant tous les codes jusqu'au Gange où on l'a replongée dans le Gange. Elle était faite en terre du Gange et puis elle a redisparu dans le Gange.
En Chine, que s'est-il passé alors en
Chine ? Et en Chine, c'est le projet juste après, du coup, que je souhaitais faire, mais bien sûr avec un symbole, cette fois-ci, non pas religieux, plutôt national. Et l'armée de terre cuite s'est tout de suite imposée aussi parce que, coup de bol, les scientifiques spécialisés sur la question, les sociologues spécialisés sur la question, étaient basés à Xi'an, à l'endroit où il y a le site archéologique. Et puis c'est là aussi que j'avais
vu... C'est un site archéologique extrêmement célèbre hein, en Chine. Les écoliers, les écolières vont le visiter, on explique ce que c'est, cette armée de guerriers enfouis sous la terre qui a été découverte il y a quelques années.
À partir de 10 ans, tout le monde en entend parler en Chine à l'école, c'est un symbole extrêmement fort.
Et vous, Prune Nourrie, vous avez reconstitué une armée de 108 fillettes de glaise. Vous avez enfoui en 2015 cette armée. En reconstituant la forme même hein, de cette armée qui était l'armée de guerriers, vous l'avez enfouie dans un lieu secret qui sera exhumé en 2030. Pourquoi 2030 ?
2030 parce que les sociologues avec qui j'ai travaillé annoncent que ce sera l'année où il y aura le plus grand déséquilibre homme-femme, donc le plus d'hommes qui chercheront à se marier, qui ne trouveront pas de femmes pour se marier. Donc ça, c'est la partie négative. J'espère aussi qu'il y aura une partie positive, qu'il y aura un rééquilibrage à l'âge des naissances entre 0 et 5 ans, où là on reverra les chiffres à peu près s'équilibrer.
Prune Nourrie, on retrouve ses œuvres et quelques autres dans le film qui va sortir d'ici quelques semaines, Serendipity. Serendipity, c'était aussi le titre du livre monographique qui a paru chez Actes Sud il y a 2 ans. Pourquoi la sérendipité ?
Pour moi, c'est un mot, Serendipity, qui est à la fois du domaine de l'art et à la fois du domaine de la science. Quand on est artiste, il y a cette part de hasard et d'intuition dont on a besoin aussi quand on est chercheur en science. Donc j'aimais ce lien entre l'art et la science, qu'on retrouve aussi dans mon travail, et puis c'est un mot qui me fait rêver.
If you had a secret power, what would it be? Healing with my hands. I love anatomy. My way of expression in sculpture, focusing on procreation, fertility, that's part of me. I was working a lot about the body, but I think I lost my body on the way. I got a call, it was my doctor. She told me that I had breast cancer. You have to freeze your eggs. It has so many links to past projects.
Vous dites beaucoup que vous travaillez avec des sociologues, des anthropologues, des scientifiques. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que le travail de l'artiste que vous faites est aussi un travail de recherche ou bien que c'est l'art qui est une forme de un outil de connaissance du monde ?
Pour moi, c'est une collaboration. C'est vraiment, je l'ai vu avec beaucoup de scientifiques. Je base mes projets sur leurs recherches. Et ensuite, je leur offre d'une certaine manière des visuels pour expliquer ça, qu'ils n'ont pas forcément. Et pour moi, c'est une digestion. Je me nourris de tout ce que j'apprends d'eux. Et puis ensuite, je digère tout ça. Et puis, j'en ressors avec ces idées, ces sculptures qui parfois s'arrêtent là, qui parfois disparaissent, mais dont restent des images. Et c'est le film est aussi là-dessus, sur toutes ces images d'archives. Pour moi, c'est comme un album de famille. Je repars dans plus de 10 ans de ma vie et de voyage. Donc c'est un film constellé d'archives et de moments plus ou moins personnels.
Des archives au cours desquelles, par exemple, on peut voir justement des créations passées, des créations anciennes, qui ont tout un lien particulier avec le sujet de votre film, Prune Nourrie, puisque c'est un film à la fois personnel, peut-être même intime, qui touche à la maladie, à une maladie qui vous a touché il y a 3 ans. C'est un cancer du sein, on peut le dire, tout simplement. Vous tissez des échos entre cette maladie, enfin l'expérience de la maladie et vos recherches, d'où ces archives, puisque par exemple on remonte à vos premières créations artistiques, une sculpture hybride, parce que vous aimez bien l'hybridité, que vous aviez baptisée Fertilité, qui est un objet qui assemble le sein d'une femme et les pies d'une vache, on est toujours entre animalité et humanité d'ailleurs, qu'on peut voir d'ailleurs à la Galerie Templon à Paris, ou alors ces dîners procréatifs en 2009 où vous mêliez justement encore art, science et gastronomie. Tiens, on va s'arrêter sur cela, les dîners procréatifs, c'est quoi l'idée ?
Alors, c'est un dîner entre art, science et gastronomie où je m'associe à un chef étoilé, un scientifique, sur la réflexion sur le mythe de l'enfant parfait. Donc, comment les nouvelles technologies nous amènent de plus en plus à pouvoir sélectionner l'enfant de nos rêves, mais forcément, les limites éthiques à ça, les possibilités aussi de dérive eugéniste. Donc, ce dîner est comme un moment pour regrouper des gens du monde de l'art et de la science autour de cette question-là. Et chaque étape est une des étapes de la procréation assistée. Donc, on arrive au sperm bar, ensuite on va à l'ovum bar, on crée son propre cocktail qu'on boit, qu'on assimile. Et à chaque fois, il y a une part de sélection, comme dans un entonnoir, vraiment, à chaque étape, on sélectionne. Donc ensuite, l'entrée, c'est les embryons congelés, on en a 3, on recongèle les autres, celui qu'on choisit, on choisit en fonction du sexe, en fonction de l'anormalité ou pas. Et ensuite, le plat principal, c'est l'amniosynthèse, fille ou garçon, on vérifie avec, c'est dans un œuf d'autruche et un tube à essai avec de la sauce, on vient le prendre avec une seringue, la sauce est soit bleue, soit rose, on vérifie si le choix qu'on a fait à l'étape précédente est la bonne. Et puis, le fromage, c'est l'accouchement. On rompt le pain qui est en forme de cordon ombilical, donc on coupe le cordon. Et puis, la dernière étape, tout en douceur, c'est l'allaitement au sein ou au biberon. Et le sein est fait avec une panna cotta, avec le téton de l'artiste en pâte d'amande, donc voilà, que j'avais moulé à l'époque sans savoir que je le perdrais un jour. Quelques années plus tard.
C'est justement l'un des liens, l'un des échos qui résonne dans ce film, puisque ce dîner procréatif que vous venez de nous raconter a été filmé, qu'on le voit en partie dans votre film. Vous filmez toujours les œuvres que vous faites, Prune Nourry ?
Pour moi, c'est une manière de fixer l'éphémère. Donc, la plupart des projets que je fais, performance ou pas, il y a quand même cette part d'éphémère, il y a cette part aussi d'imprévu. Qui est assez passionnante. Quand j'ai fait le sperm bar dans les rues de New York, je ne savais pas du tout comment les New Yorkais allaient réagir. C'était sur la 5e avenue.
Oui, sorte de performance inspirée des banques de sperme dans un chariot type food truck.
Voilà, une réflexion sur les bandes de sperme aux États-Unis, l'aspect aussi extrêmement économique autour de ça. Plus on paye, plus on a d'informations qui parfois sont presque absurdes. Donc c'était une reprise de ces food trucks dans lesquels normalement on achète des hot dogs, sauf que là, voilà, c'était comme un mini laboratoire.
Donc vous filmez toujours comme une façon de prolonger l'éphémère de l'expérience et de la performance. Sauf que là, le point de départ de Serendipity, ça n'est pas une performance, c'est une expérience qui vous arrive personnellement. À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez filmer ce qui vous arrivait? Vous filmez sur un lit d'hôpital, vous filmez au moment d'une opération, vous filmez dès le début quand on vous voit couper cette très longue tresse que vous faisiez tous les matins parce que vous allez subir une chimiothérapie et que vous allez perdre vos cheveux, vous préférez couper la tresse avant de les perdre tous les uns derrière les autres. Donc à quel moment vous avez choisi de filmer, Prune Nourry?
Je pensais faire un film sur terracotta d'auteur, sur mon projet que je venais d'enfouir en 2015.
En Chine.
Et en fait, je suis tombée malade et autour de moi, je travaillais avec un scénariste sur Terracotta Daughters et ce scénariste m'a dit « Mais écoute, là, la priorité, arrête de t'obnubiler sur ce film-là et sur le terminer. La priorité, c'est clairement ta santé. » Et ça a été un premier très bon conseil. Le deuxième conseil, c'était Darren Aronofsky, un ami à New York qui est réalisateur, qui m'a dit « Écoute, ta chance, c'est qu'en tant qu'artiste, tu peux tout transformer de manière créative. Prends la caméra, puis tu verras bien ce que t'en feras. » Et de ces deux conseils-là, effectivement, j'ai pris la caméra et le fait de dire action m'a permis d'être dans la proaction. Et quand on est malade, quand on est patient, quand on est transporté sur un lit d'hôpital, alors qu'on pourrait marcher jusqu'à la salle d'opération, le fait d'avoir cette caméra en main et d'être créatif dans la maladie, ça m'a énormément aidé.
Vous diriez que ça vous a aidé à surmonter ou à supporter l'épreuve ? Comme une bouée de sauvetage, quoi, finalement.
À supporter les traitements, clairement. Et puis, à penser à autre chose, à être créatif, proactif, à aussi avoir une relation marrante avec les médecins, puisqu'ils acceptaient d'être filmés, que ça les amusait. Donc, on pensait à côté en dehors de la boîte.
On voit Prune Nourry dans votre film différents moments, de fait, et en lien avec des œuvres passées. Et par exemple, vous mettez en lien le sein que j'évoquais tout à l'heure, hybride, avec cette prothèse qu'on va sans doute vous greffer et vous voit filmer avec la discussion avec le médecin qui explique de quoi est fait cette prothèse mammaire, comme si tout d'un coup, vous la sculpteuse, devenez objet de sculpture. Vous en avez pris conscience de ça ?
En fait, le film s'est créé au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, je prenais conscience de tous les liens étranges entre les projets que j'avais faits dans le passé et la maladie. Je pouvais pas prévoir, par exemple, qu'à un moment donné, mon chirurgien me proposerait de m'hybrider avec de la peau de fœtus de bœuf et de vache, sachant que j'avais fait mes hybrides vache sacrée fille des années avant. Et puis aussi, voilà, de tout d'un coup avoir du silicone à l'intérieur de moi, alors que c'était un des premiers matériaux que j'avais utilisé lors d'un de mes premiers projets. Donc j'avais vraiment cette impression, effectivement, de passer de la sculpteur à la sculpture, et au fur et à mesure de la reconstruction. Donc à un moment donné, il a fallu que je reprenne la main et que je redevienne le sculpteur, et c'est pour ça que j'ai fait cette sculpture qui s'appelle l'Amazon à New York, à la fin des traitements, comme un rite de passage pour redevenir sculpteur.
L'Amazon, c'est une immense statue de près de 5 mètres, en béton, et la moitié de son corps est percée, on peut le dire comme ça, transpercée de bâtons d'encens. Pour quelle raison ?
Comme des aiguilles d'acupuncture pour moi, parce que l'acupuncture a été un de mes piliers pendant les traitements, et ça l'est encore. Et je crois vraiment dans ses bienfaits, dans cette idée de fluide invisible qui passe à l'intérieur de nous, et puis quand il est bloqué quelque part, bah, ça peut se transformer au fur et à mesure du temps en maladie. C'est assez marrant d'ailleurs que les médecins chinois, d'une certaine manière, bah, ils doivent vous payer quand vous êtes malade. Enfin, vous arrêtez de les payer quand vous êtes malade, vous les payez quand vous êtes en bonne santé. Ça veut dire beaucoup. Et du coup, elle est recouverte pour moi à la fois de ces aiguilles d'acupuncture qui sont en même temps des bâtons d'encens sur cette, un peu comme les Mizuko Kuyo au Japon, qui sont des ex-voto. Quand les femmes passent à travers des avortements ou des fausses couches, elles représentent comme ça en béton une sculpture de leur enfant et elles mettent de l'encens devant. Donc il y a une forme en fait de catharsis.
C'est d'ailleurs le titre de l'exposition à la Galerie Templon qu'on peut voir à Paris. D'ailleurs dans le film Prune nourrie, vous dites que la sculpture, vous en faites en tout cas pour pouvoir guérir avec vos mains. Vous pensez qu'il y a un vrai lien entre l'art, le soin, l'art, la thérapie, l'art peut guérir, l'art peut réparer, disons.
J'en suis convaincue. Je l'apprends au fur et à mesure. C'est, je pense, quelque chose que chaque artiste porte en soi. Au départ, on fait de l'art parce qu'on n'a pas le choix. On fait parce que c'est une question de survie, en fait. Sans faire ça, ben, on en meurt, on dépérit. Et puis après, autour de soi, au moment où on offre en fait l'œuvre au regardeur, où on abandonne un peu son œuvre pour qu'elle puisse avoir sa vie propre, on espère que justement, à travers ce regard, elle pourra aider des personnes. Donc c'est, il y a une forme de soin, une forme de guérison par l'art peut-être.
Vous avez fait ce film, Serendipity. Vous continuez de travailler. Est-ce que malgré tout, le passage par cette expérience de la maladie a changé votre façon de faire, changé votre regard sur le monde, changé votre manière d'être au monde?
Surtout,
ou même, enfin, pardon, de créer, d'être artiste.
Avant la maladie et avant le film Serendipity, c'est vrai que j'avais toujours l'impression d'avoir une certaine distance par rapport à mes projets. J'étais convaincue que si j'étais pas artiste, je pourrais être anthropologue. Donc il y avait presque une distance objective de scientifique. Et c'est vrai que le film a été un passage très compliqué pour moi parce qu'il a fallu que j'accepte de retourner la caméra sur moi et de faire partie de l'œuvre d'une certaine manière, et du coup surtout d'accepter que bah en tant qu'artiste en fait non, on peut pas être foncièrement objectif, on est forcément subjectif.
Vous restez avec nous, Prune Nourrie, on vous retrouve d'ici 2 minutes. L'artiste Prune Nourrie est notre invitée ce matin. Prune Nourrie, dont on peut voir des œuvres au château Malromé en Gironde, à la galerie Templon à Paris et très bientôt dans un film Serendipity qui sortira le 23 octobre sur les écrans. Prune Nourrie, comment naît en vous une œuvre? Est-ce qu'elle naît d'une vision? Par exemple l'Amazon, est-ce que vous avez tout de suite, dont on parlait tout à l'heure, la vision de la réalisation de cette Amazon avant de la créer?
L'Amazon, ça a été en deux étapes. D'abord parce que pendant que je faisais le film, non, je savais pas d'ailleurs encore que j'allais faire le film. Je savais que je devais avoir des traitements, la chimio. Et donc, j'ai décidé de prendre les devants et de me couper la natte que j'avais depuis plusieurs années pour me faire une coupe qui ressemblait à une perruque. Je me suis dit, au cas où je perds mes cheveux et que je devrais porter une perruque, bon, bah, au moins, les gens verront pas la différence. Et donc, je me suis fait une coupe un peu à la Cléopâtre. Pour ça, mon amie Agnès Varda m'a dit « Oh bah super, écoute, faisons ça ensemble parce que moi aussi, j'ai gardé ma natte de quand j'avais 18 ans. » Donc, elle me sort sa natte et on décide de faire ça, même pas spécialement filmer, une petite scénette comme ça. Et c'est Julia, son bras droit, qui finalement a pris une caméra, qui a filmé ça. La veille au soir, je me dis « Tiens, je vais prendre un drap blanc et je vais m'habiller comme dans la Grèce antique, comme ça, pour se déguiser. » Et donc tout était un peu imprévu et puis à un moment donné, alors que voilà j'ai cette toge et que Agnès filme et puis elle me dit « bah tiens c'est marrant en fait on dirait une Amazone ». Et effectivement je venais d'avoir ma mastectomie donc je le cachais derrière la toge mais j'étais une Amazone puisque je venais de me couper le sein pour être meilleure d'une certaine manière avec mon arme, ce qui était le cas des Amazones. Donc il y avait vraiment cette idée d'autodéfense. Et du coup, on a filmé cette partie-là vraiment sans trop le prévoir. Donc le film s'est fait comme ça.
Oui, le film, mais l'Amazone.
Et l'Amazone, c'est parti de cette idée-là.
Immense, ouais.
Et c'est parti,
par exemple. Hein.
C'est parti de cette idée-là, de ce moment précis. Et puis c'est parti aussi d'une rencontre pendant les traitements au Metropolitan Museum avec une sculpture d'une Amazone, qui est la seule sculpture d'une Amazone là-bas, en marbre, et qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle était avec le bras levé en train de regarder sa blessure et qu'elle avait une expression hyper douce, patiente. Et voilà, je pense que j'étais en plein traitement et que du coup cette expression m'a beaucoup touchée. Et j'ai décidé de faire ma propre version. En 5 mètres de haut, en béton, avec une toge, toujours un peu dans le style antique, mais recouverte d'aiguilles d'acupuncture et sur cette idée de guérison, et puis en même temps de bâtons d'encens.
Est-ce que vous avez suivi, Prune Nourry, ce débat qui a pointé cet été, alors que l'ICOM, qui est le Conseil international des musées, et qui regroupe 45 000 professionnels, 20 000 musées dans plus de 100 pays, 141 pays, donc l'ICOM a proposé une nouvelle définition du musée, qui est discutée, qui a été discutée le 7 septembre dernier à Kyoto, et cette nouvelle définition du musée fait du musée non plus un lieu de sanctuaire, conservation, exposition, patrimoine, mais un lieu de démocratisation, dédié au dialogue critique sur les passés et les futurs, beaucoup plus tourné vers le public, plus participatif. Je vous demande si vous avez suivi ce débat, parce qu'en fait, cette définition devait être votée le 7 septembre à Kyoto, mais les Français en particulier ont mené une fronde contre cette nouvelle définition, et on voit émerger une querelle des anciens et des modernes. Alors je ne sais pas de quel côté vous vous situez, puisque de toute façon le vote n'a pas eu lieu, ça a été ajourné, on ne sait pas encore où on en est. Mais est-ce que pour vous le musée doit rester tourné vers les collections et le patrimoine, ou sortir du musée, c'est-à-dire aller vers tous les publics, mettre aussi en avant un rôle social, un rôle démocratique, disons, du musée?
L'art n'aime pas les définitions, il s'échappe dès qu'on le met dans une boîte. C'était Dubuffet qui disait ça, c'est pour ça qu'il était parti vers l'art brut. Paul Valéry, lui, parlait plutôt justement de ces musées poussiéreux, sanctuaires, etc. Je pense qu'on n'est pas obligé de définir, en fait. Un sanctuaire, ça peut être aussi très englobant. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose de très accueillant là-dedans et quelque chose de très démocratique là-dedans aussi. On n'est pas obligé de le voir comme une église, on peut le voir comme un temple, comme un lieu spirituel d'une manière ou d'une autre, où on fait le lien entre le passé et le futur, mais aussi entre la terre et le ciel, entre l'âme et le corps. Et puis, par contre, ce qui est fascinant pour moi dans les musées et très important, c'est l'aspect d'éducation, c'est les enfants, d'avoir des enfants partout, la manière dont ils proposent des activités aux enfants. Et d'une certaine manière, on est tous des grands enfants, donc s'ils le font bien pour les enfants, ils sauront le faire pour les adultes aussi.
À bon entendeur, salut. Merci beaucoup à vous, Prune Nourry, en tous les cas, d'être venue nous voir ce matin. On va se quitter en musique avec votre choix musical. Vous avez choisi ce matin Esther Phillips.
A brand new day.
When all the dark clouds roll away and the sun begins to shine, I see my freedom from across the way, and it comes right in on time. It shines so bright
and it gives so much light, and it comes from the sky above. Makes me feel so free, makes me feel like me, and it lights my life with love. And it seems like, well, it feels like, yet it seems like, yes, it feels like.
Merci beaucoup, Prune Nourrie. Alors, d'auteurs, c'est au Château Malromé jusqu'à demain. Catharsis, c'est à la Galerie Templon à Paris jusqu'au 19 octobre. Et votre film, Serendipity, sera en salle le 23 octobre.